Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables, mais maintenant ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vus et ils nous ont détestés, moi et mon Père. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage. Parce que vous êtes avec moi depuis le début. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit cela afin que, l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début, parce que j'étais avec vous.
Merci beaucoup, Joseph, d'avoir lu ce texte sans avoir été prévenu longtemps à l'avance. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de pouvoir lire la Bible avec vous ce soir. Si vous êtes là pour une première fois, nous sommes très très contents de vous accueillir et nous espérons que vous allez passer une super soirée avec nous. Il y a un an, je n'étais pas ici en France, j'étais en Australie. Ce jour, jour par jour, pour jour, j'ai passé les derniers moments avec ma mère avant sa mort. C'était aujourd'hui sa dernière journée entière en vue avant de mourir. Et autour de son lit de mort, dans l'après-midi, il y a un an, il y avait mon frère, mes quatre sœurs et mon papa. Nous étions tous réunis autour de son lit, et bien sûr il y avait maman. C'était vraiment quelque chose de très très spécial d'avoir pu vivre ensemble ces quelques heures autour du lit de ma mère. Elle n'était pas capable d'un grand discours, elle était très faible, mais elle avait toute sa lucidité dans les questions à laquelle elle a pu répondre. Elle montrait beaucoup de lucidité. Mais c'était dans les jours suivant sa mort que une de mes sœurs s'est rappelée d'un rêve que maman avait fait une trentaine d'années d'avant. Dans son rêve, une trentaine d'années, ça veut dire lorsque nous étions des adolescents à la maison. Alors, 6 enfants à la maison, il n'y avait pas souvent beaucoup de paix. Il y avait pas mal de disputes, ça chauffait pas mal. Et dans ce rêve, en fait, maman était très très malade. Et dans ce rêve, elle était sur le point de mourir. Et nous étions tous, comme il y a un an, dans son rêve, nous étions tous autour de son lit. Et elle avait un message pour nous. Et son message, c'était qu'on s'aime les uns les autres. Alors, en se rappelant de cette histoire, en quelque sorte, maman n'avait pas prononcé un discours envers nous, mais on a pensé, bon, si elle avait prononcé un discours il y a un an, ça aurait été un bon discours à prononcer. Que nous, les enfants, nous continuons à nous aimer les uns les autres. Et ça me fait penser beaucoup à la partie de la Bible que nous sommes en train de lire, dans Jean 13 à 17 actuellement. Parce que Jésus, il se rapproche de sa mort. C'était une mort beaucoup différente. Pour ma mère, elle n'aurait pas choisi de mourir comme ça. Je pense qu'elle n'aurait pas choisi de mourir, point. Elle a reporté autant que possible sa mort. Sa mort, c'était quelque chose qu'elle a subi de manière involontaire. Elle a résisté aussi longtemps que possible. Mais Jésus, il a choisi la mort de manière volontaire. Il a choisi la mort de manière volontaire pour nous, pour payer pour nos péchés, pour ouvrir la voie vers l'éternité avec lui, avec Dieu. Mais Jésus, il avait toutes ses forces. Il était conscient de son départ. Et lui, il fait un discours qui dure plusieurs chapitres. Et donc c'est là où nous sommes. Et très intéressant, une des choses qui se répète plusieurs fois, c'est justement que les disciples devraient s'aimer les uns les autres, avec une précision très très importante, comme moi, je vous ai aimé. Trois fois Jésus les encourage à suivre son exemple. Au chapitre 13, il ne reprend pas le mot aimer, mais plutôt de se laver les pieds les uns les autres. Et de suivre son exemple. Fais comme moi, je vous ai fait, il dit. Au chapitre 14, verset 34, et au chapitre 15, verset 12 et 13, il reprend la formule aimez-vous les uns les autres. Et il le donne comme un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé. S'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés, c'est faire preuve d'un amour sacrificiel. J'ai trouvé très très touchant l'histoire que Fabrice nous a racontée il y a quelques semaines. Si vous étiez là, c'était l'histoire de son GBU de l'année dernière. Et il y avait une fille qui a un père qui est très dur avec elle. Et qu'elle souffrait de la dureté de son père, si je me rappelle bien. Et c'est aussi une famille, il n'y avait pas de moyens. En tout cas, les GBUciens ont cotisé ensemble pour acheter un téléphone portable et du crédit dessus. Ça n'aurait pas été très utile d'avoir le téléphone sans le crédit. Et lui ont fait cadeau de cela. Et c'était pour mieux garder le contact avec ses amis. Je trouvais que c'était un geste vraiment bien en ligne avec ce que Jésus raconte ici. Aimez-vous les uns les autres de manière concrète, de manière sacrificielle. Et je pense que l'amour auquel Jésus nous appelle comprend au moins cela. Mais je me demande, est-ce que l'amour les uns pour les autres dépasse cela, va encore plus loin. Et je pense que c'est très très intéressant de lire le texte que nous venons d'entendre ce soir, parce que, à mon avis, de comprendre ce nouveau commandement, il faut le comprendre dans le contexte de la globalité du discours de Jésus, ce discours de la fin, et de son ministère, de sa mission. Revenons sur la fin du texte de la semaine dernière. Nous avons lu Jean chapitre 15, verset 1 à 17. Et je voudrais juste commenter un verset que nous n'avons pas vu en détail. Qu'est-ce que c'était riche la semaine dernière? Je ne sais pas, si vous n'étiez pas là, vous avez vraiment raté quelque chose. Et je vous encourage, vous pouvez aller sur le site idf.gbu.fr. Et puis, vous pouvez chercher des interventions. Je ne sais pas si c'est déjà posté, Mais j'espère que sous peu, ça va être posté et vous pouvez reprendre cette intervention-là. Alors, au chapitre 15, verset 16, Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Alors, le mot, il y a trois choses que je voudrais juste nous faire remarquer dans ce verset. Tout d'abord, l'expression « je vous ai établi ». Ce verbe-là a un sens technique. C'est établir pour une fonction, ou mieux, établir pour une mission. Et si vous avez la Bible Sommer, vous allez... Est-ce que quelqu'un a la Bible Sommer? C'est rendu comment, Manu? Le verset 16, juste le début.
Je vous ai choisi. Je vous ai choisi.
Et ensuite?
Je vous ai donné mission d'aller.
Oui, c'est ça qui traduit cette expression. Je vous ai donné mission d'aller. Donc, ils sont chargés avec une mission. Et ce verbe aller, c'est aussi dans lorsque Jésus le reprend. Pas toujours, mais ça a le sens d'aller en mission. Je vous ai donné mission d'aller où? D'aller dans le monde, je pense. Et quelle est cette mission d'aller dans le monde, porter du fruit? Troisième précision. Porter du fruit qui demeure. Alors, si vous avez suivi l'intervention de la semaine dernière, le verbe « demeurer » est un verbe vraiment clé dans le passage. Jésus est la vigne, les disciples sont les sarments qui s'attachent à la vigne. Et il les invite à demeurer en lui et à porter du fruit. Ça veut dire que le sujet du verbe « demeurer » partout dans ce passage, ce sont des personnes. Ce sont des personnes qui demeurent en Christ. Et donc Jésus les envoie, il me semble, c'est pas seulement à moi que ça semble comme ça, mais que Jésus les envoie pour porter du fruit dans le monde. Cela veut dire qu'ils vont faire des disciples qui vont demeurer en Christ. Ça vous va? Alors, peut-être que vous n'êtes pas entièrement convaincu, mais ça vaut la peine de le mijoter, de laisser mijoter ces idées-là, en lisant tout l'ensemble de ce dernier discours de Jésus. Alors, si ce que je viens d'expliquer est juste, ça va nous aider à comprendre le passage de l'amour, ou cette idée de l'amour les uns pour les autres. Oui, le passage du chapitre 15, la première partie, au chapitre 15, la deuxième partie. Parce qu'il y a une transition. On passe d'une image très très beau, une vigne, avec des sarments qui portent du fruit, où les uns aiment les autres de manière sacrificielle. Et au verset 18, c'est cassé. C'est cassé par la haine du monde. Mais si Jésus a chargé les disciples avec la mission d'intégrer de nouveaux recrues, les sortants du monde, pour qu'ils s'attachent à Jésus, alors la haine du monde, cette transition-là, s'explique davantage, à mon avis. Alors Jésus donne trois raisons pour la haine du monde envers les disciples. Et puis, en quatrième point, il explique pourquoi il les a prévenus de cette haine. Commençons donc avec la première raison que Jésus donne pour la haine du monde envers les disciples. La première raison, c'est tout simplement que le monde déteste Jésus. Le monde déteste Jésus. Versets 18 à 21. Je lis. « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom. » Petite précision, le monde, ce mot « monde » dans l'évangile de Jean, c'est l'ensemble de l'humanité en rébellion contre Dieu. Ce mot a presque toujours une connotation négative. C'est la résistance contre Dieu. Et le père de ce monde, Satan, le diable, c'est celui qui anime cette opposition contre Dieu dans l'évangile, sur les lèvres de Jésus, lorsqu'il reprend ce mot « monde » dans l'évangile de Jean. La raison ultime pour cette haine du monde est que Jésus témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Dans Jean 7, verset 7, Jésus le dit, « Si le monde me haït, c'est parce que moi je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. » Si vous voulez deux chapitres à lire juste pour capter cette haine et aussi pour capter cette idée que Jésus il témoigne des œuvres mauvaises du monde, vous n'avez qu'à lire Jean chapitre 7 et chapitre 8. Il y a un conflit de ouf dans ces deux chapitres-là. La haine qu'inspire le bilan de Jésus à l'égard notamment des responsables de Juifs de l'époque est palpable lorsqu'on arrive notamment au chapitre 8. Mais il en est toujours de même. Personne n'aime qu'on lui montre du doigt. Alors, lorsque moi je montre les gens du doigt, normalement, il y a plusieurs doigts qui reviennent sur moi. Mais lorsque Jésus nous montre du doigt, il n'y a pas de doigt qui revient sur lui. Jésus, il est parfait. Jésus, il est juste. Mais on déteste ça. On déteste ça. Et le monde le déteste. D'avoir ses mauvaises œuvres mises en lumière. Mais il y a une raison supplémentaire donnée dans ces versets. Pourquoi le monde est Jésus? C'est que le monde déteste ce qui n'est pas le sien. Verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Vous voyez, c'était des anciens du monde, les disciples. Ils étaient dans le monde avant, mais Jésus les a choisis, il les a ôtés du monde pour qu'ils appartiennent plus au monde, mais pour qu'ils appartiennent à lui, Jésus. Pour mettre en perspective ce verset, j'ai une petite histoire à vous raconter. Voilà des faits qui ont eu lieu il y a quelques années devant la faculté de Nanterre. Il y a certaines personnes qui ont déjà entendu cette histoire. Mais c'était lors de l'équivalent du camp Nouveau Départ de l'époque. Et il y avait des Jébusiens et des gens venus exprès de l'Angleterre sur cette occasion-là, qui étaient là en train de faire un stand. Et plusieurs fois, des syndicalistes, c'était un syndicat vraiment méchant, et des syndicalistes sont passés prendre des évangiles, les jeter par terre. Ou bien, ils sont passés pour dire, si vous restez là, on va s'occuper de vous. Et ils ne blaguaient pas. Mais le jour est venu où ils ont décidé, ben, ils sont encore là, ces chrétiens. On les a menacés, ils ne partent pas. Et donc, ils sont venus avec, je ne sais pas, 5 ou 6 costards. Qu'est-ce qu'on dit costards? Costaud, merci. Costaud. Ils ont renversé la table, ils ont piétiné les évangiles, ils ont jeté la table sur la voie ferrée, et puis ils sont venus pour nous taper. Je pense que c'était le but. C'était assez tranquille, il n'y avait pas beaucoup de monde qui était là. Mais parmi nous, il y avait un Africain, Emeran. Et c'était, ils ont pris Emeran pour cible. Et c'est très intéressant, pourquoi? Parce que moi j'avais discuté avec ces gens-là pour savoir pourquoi ils avaient tellement de haine pour nous. Et ils m'ont expliqué, alors c'était notamment des gens de l'Afrique du Nord, des athées, d'accord, pas des musulmans, des athées de l'Afrique du Nord, qui avaient compris que la colonisation de l'Afrique du Nord avait été faite à la demande du pape. Et donc, pour cet Africain, Emeran, qui était aussi issu d'une ancienne colonie, d'être avec les chrétiens, c'était la trahison. Comment est-ce qu'ils pouvaient se mettre avec les colons? Est-ce que vous voyez? Et la manière dont ils ont menacé, c'était humiliant. Mais tu veux juste mettre debout? Le gars, il est venu comme ça. Baisse les yeux. Je crois que c'était... Ils ont demandé qu'il baisse les yeux. Et c'était très, très physique. Et je crois que c'était soit une manière de dire, ben, je m'humilie, je me soumets à toi. Mais c'était aussi, en baissant les yeux, tu ne vois pas ce qu'on va te faire autour de la tête ou peut-être dans le ventre. Alors, Emeran, il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas baissé les yeux. Mais ce jour-là, on a compris la haine du monde. Mais est-ce que vous voyez le principe? Les gens qui étaient auparavant dans le monde, ils sont sortis du monde pour appartenir à Jésus. Est-ce que le monde va les aimer? Non, ce sont des traîtres, tout simplement. Ce sont des traîtres. Et tout comme Emeran a été considéré comme un traître vis-à-vis de leur idée un peu bizarre de la colonisation. J'ai trouvé une citation très intéressante par un commentateur. Le monde est une société de rebelles et ils trouvent difficile de tolérer ceux qui donnent avec joie leur allégeance au roi à qui toute loyauté est due. Des anciens rebelles qui, par la grâce du roi, ont été regagnés à une allégeance pleine d'amour pour leur roi, ne trouveront pas de popularité auprès de ceux qui persistent dans leur rébellion. Je ne sais pas si... C'est bien compris. Si on a quitté la rébellion pour être avec le roi, ceux de la rébellion auront de la haine pour vous. Je crois que ce verset 19 nous aide à comprendre peut-être une autre dimension aussi du commandement de Jésus, d'aimer les uns les autres comme lui, il nous a aimés. Jésus, est-ce qu'il a aimé des gens qui étaient déjà aimables? Je crois que non. Parce que quel était leur état lorsque Jésus les a choisis? Verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde... Lorsqu'ils faisaient partie du monde, est-ce qu'ils étaient pour Jésus ou contre Jésus? Est-ce qu'ils étaient pour Dieu ou contre Dieu? Ils étaient contre Dieu. Ça me fait penser à ce verset dans Romains chapitre 5, verset 8. C'est lorsque nous étions encore pécheurs que le Christ est mort pour nous. trouve que la précision est très intéressante. Est-ce que lorsque Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés, est-ce que c'est uniquement ceux qui sont déjà, qui ont déjà quitté la rébellion pour le suivre? Moi, je me demande s'il pense aussi à ceux qui n'ont pas encore quitté la rébellion, mais qu'il a déjà choisi. Regardez le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Il me semble, en lisant l'évangile de Jean, que nous ne choisirions jamais Jésus. Nous ne choisirions jamais Dieu si lui, il ne nous choisissait tout d'abord. Et donc, je me demande, lorsque Dieu nous invite à aimer les uns les autres jusqu'au bout, si Jésus, il pense aussi à ceux qu'il a choisis, mais qui sont encore dans la rébellion. Et ça va faire mal de les chercher, de les sortir de la rébellion. Bon, on peut garder cette idée en tête. Je ne suis pas à 100% sûr, mais je me pose la question. Une petite application. Si le monde déteste les chrétiens parce qu'il a détesté tout d'abord Jésus, il faut juste avoir un peu de bon sens vis-à-vis d'une approche un peu à la mode parmi les chrétiens, de chercher à gagner de la crédibilité dans la société et dans le marché des idées. Je ne veux pas dire qu'on ne devrait pas le faire, mais il faut juste un peu de bon sens là-dessus. On peut chercher de la crédibilité si on ne parle pas trop de Jésus. Mais plus qu'on parle de Jésus, plus on va nous haïr, tout simplement. Il faut juste savoir qu'il y a des enjeux lorsqu'on cherche la crédibilité et de ne pas miser tout dessus. Le plus important est de parler fidèlement de Jésus. Défendons donc notre foi, mais soyons lucides. La recherche de la crédibilité ne doit jamais être le fondement sur lequel nous bâtissons notre approche. Si Jésus a commencé en parlant de la haine du monde pour lui, ensuite il parle de la haine du monde pour son Père. C'est la deuxième raison pour laquelle le monde va haïr ses disciples. Et c'est au verset 21 où Jésus fait une transition de ne plus parler uniquement de lui, mais de parler aussi de son Père. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne connaissent pas Dieu, le Père. Au verset 22 et au verset 24, Jésus emploie, il y a deux phrases qui commencent avec un « si » et puis qui continuent avec un « maintenant ». Je lis la première au verset 22. Si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Est-ce que vous avez remarqué que Jésus parle de ces paroles, si je ne leur avais pas parlé? Dans la deuxième phrase qui commence de la même manière, verset 24, si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Alors, je ne sais pas si ça vous fait tilt. Cette deuxième fois, il s'agit des œuvres de Jésus. Les paroles de Jésus et les œuvres de Jésus. Pour ceux qui étaient là il y a deux, trois semaines, au chapitre 14, nous avons vu que Jésus dit la chose étonnante, celui qui m'a vu a vu le Père. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a, si on a vu Jésus, on a vu le Père? Ben, il explique que moi, je dis les paroles de mon Père. et moi je fais les œuvres de mon Père. Il le dit de manière un peu synthétique, mais ailleurs dans Jean, nous avons vu que c'est tout à fait ça. Jésus, il fait exactement ce que son Père lui demande de faire. Il dit exactement ce que son Père lui demande de dire. Cela veut dire, et vous, l'image que j'ai prise, c'était quelqu'un d'un peu plus dense, qui danse de manière parfaite, mais dont un des partenaires est invisible. Et en quelque sorte, à travers l'autre partenaire, celui qui est visible, on voit celui qui est invisible. On voit le Père. Tellement ils sont fusionnés, ils sont unis dans leur action. Eh bien, cela veut dire que si on rejette Jésus, si on déteste Jésus, on déteste le Père. On déteste Dieu. C'est très intéressant dans ces versets-là, au 27, Jésus commence à parler aussi du péché et de la culpabilité. Si je n'étais pas venu, il ne serait pas coupable de péché. Est-ce que vous voyez que ça nous aide beaucoup à définir ce que c'est que le péché? Le péché, c'est détester Dieu. Le péché, c'est avoir de la haine pour Dieu. C'est très très utile pour si on cherche à comprendre et à expliquer ce que c'est que le péché. En fait, c'est ce qui nous est présenté dans Genèse chapitre 3 au début de la Bible. C'est de donner une claque à Dieu, de rejeter. Et Jésus est venu pour convaincre le monde du péché, de sa culpabilité. Je me rappelle d'une conversation que j'ai eue peu de temps après mon mariage avec Déborah, avec un membre de sa famille. Alors, je rencontrais ma belle famille, et c'était quelqu'un de bien. En fait, on m'avait parlé de lui, il faut que tu parles avec celui-là, il est vraiment très très sympa. Et c'était, j'avais compris que dans la famille, c'était quelqu'un qui s'intéressait aux autres, qui faisait des gestes très sympas, qui était vraiment apprécié. Alors, on n'avait pas discuté très longtemps qu'il a découvert ce que je faisais. À l'époque, je faisais des études de théologie, donc il a su que j'étais chrétien. Alors, sachant que j'étais chrétien, et avant que je puisse dire grand-chose sur ma foi, il m'a dit quelque chose du genre, « Tu sais, il y a des types de chrétiens que j'aime et d'autres types que je n'aime pas. » Sans savoir lequel j'étais. Hein. D'accord? Ce que je n'aime vraiment pas, c'est ce dont le Dieu est un Dieu qui juge. Ce dont le Dieu... il tient les gens comme responsables pour leurs péchés et qui les juge. Pour moi, Dieu est un Dieu d'amour. Et ces gens-là, je ne les aime, et ce Dieu-là, je ne l'aime vraiment, vraiment pas. Alors j'avais un peu mal, qu'est-ce que je dis? Parce que, bien sûr, je crois que Dieu est un Dieu d'amour. Bien sûr. Bien sûr que je crois que Jésus, lorsqu'il a donné sa vie, lorsqu'il a pris le jugement à notre place, mais il ne voulait pas entendre cela. Il avait de la haine pour Dieu. Il détestait Dieu. Ce n'était pas seulement Jésus, c'était ce Dieu-là. Et les gens qui étaient avec ce Dieu-là. Rejeter Jésus, c'est rejeter Dieu. C'est le péché. Et lorsque Jésus est venu, lorsqu'il a dit ces paroles qui sont venues de Dieu, lorsqu'il a fait ces œuvres que Dieu lui a demandé de faire, qu'est-ce qu'on a fait avec lui? On l'a crucifié. Il était venu pour sauver le monde. On l'a tué. Jésus dit, verset 25, mais que cette parole écrite dans leur loi soit accomplie. Ils m'ont haï sans cause. » Il n'y avait pas de raison de haïr Jésus. Ils l'ont fait sans cause. Troisième raison pour laquelle on déteste les disciples de Jésus, c'est que les disciples témoignent au monde. Chapitre 15, 26 et 27. Je lis le verset 26. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, y rendra témoignage de moi. » Alors, je m'attarde juste un moment sur ce mot « consolateur ». Je l'ai fait il y a 2-3 semaines, mais juste au cas où. C'est le mot « paraclète » dans le grec. Et à mon avis, ce mot a deux sens. C'est à la fois l'avocat qui prend la défense, à la fois l'avocat à charge. Je pense que ce que nous venons de voir, c'est le rôle de Jésus. Jésus dit que lui, il était leur premier paraclète, le premier avocat. Et puis il dit, j'envoie un autre consolateur, avocat, l'Esprit Saint. Mais Jésus vient d'être décrit dans l'aspect ou dans le rôle de l'avocat à charge. Vis-à-vis du monde, Jésus convainc le monde de son péché, de son rejet de Dieu. Mais vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis des siens, c'est plutôt un défenseur. Il nous défend auprès du Père, devant la justice de Dieu, parce que lui, il a donné sa vie à notre place. Si vous voulez chercher ces idées-là, plutôt pour l'idée de défenseur, vous pouvez chercher plus tard 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2, où le mot paraclète revient cette fois-là au sujet de Jésus. Mais l'Esprit Saint va témoigner. L'Esprit Saint va témoigner de Jésus. Et à mon avis, il va avoir ce double rôle d'avocat à charge vis-à-vis du monde et d'avocat, la défense vis-à-vis de ceux qui appartiennent à Jésus. Mais ce n'est pas seulement l'Esprit Saint qui va témoigner. Au verset 27, Jésus rajoute, « Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » Vous aussi, vous me rendrez témoignage. J'aimerais bien dire que Jésus ne parle pas du témoignage comme souvent on en parle dans nos milieux chrétiens. Souvent, lorsqu'on dit que je vais témoigner, on veut dire que je vais raconter l'Évangile. Où je vais raconter comment Dieu a agi dans ma vie, je vais raconter mon témoignage. Mais je crois que Jésus, il prend le mot témoin ici, témoignage, de manière témoin oculaire. Parce que Jésus précise, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Le commencement de quoi? Le commencement de son ministère. Dans la mission que Jésus donne à ses disciples, lui rendre témoignage est très, très important. Nous allons voir ça dans 2 semaines, la prochaine fois. Mais nous ne pouvons jamais rendre témoignage de la même manière que les disciples l'ont fait. Parce que nous n'étions pas là. C'est eux qui sont les témoins oculaires. Mais nous, on sera fidèles dans notre témoignage, entre guillemets, tant que notre témoignage s'accorde avec leur témoignage oculaire. Ça va? Et là, j'aimerais bien vous dire, lorsque on témoigne de manière fidèle à Jésus, ces deux rôles, à la fois de... parfois le témoignage va mettre en valeur Jésus en tant que paraclète, en tant qu'avocat à charge, pour relever le péché du monde. Parfois, le témoignage rendu va mettre en valeur le rôle de Jésus comme témoin, comme avocat de défense. Ça veut dire que lorsqu'on rend témoignage, lorsqu'on dit les paroles de Jésus, à la fois, on va déranger le monde. tout comme Jésus l'a fait. Je trouve que, mais à la fois, on va recevoir ça, cette parole. J'aime beaucoup le verset 20, où Jésus capte cela. Si m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'est pas complètement noir. Mais lorsqu'on témoigne, certains vont nous haïr. Le monde va nous haïr. Mais certains vont écouter à cette parole. Certains vont écouter et garder cette parole. Est-ce que vous comprenez un peu mieux pourquoi le monde va avoir de la haine pour les disciples? C'est pas seulement parce qu'ils sont, ils s'associent à Jésus. C'est aussi parce qu'ils auront un rôle de témoignage. Et nous sommes appelés à continuer. Nous ne pouvons pas le faire de la même manière qu'ils ont fait les apôtres, mais en nous appuyant sur leur témoignage, on peut continuer leur mission à notre tour. Et ainsi, pour certains, on sera le parfum de vie, et pour d'autres, l'odeur de la mort. Alors, voilà les trois raisons pour lesquelles le monde va nous haïr. Mais il y a les versets 1 à 4 du chapitre 16 qui sont très très importants. Prévenu pour tenir bon. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés, pour que vous ne chuterez pas. Ils vous excluront des synagogues, et même leur bien, ou quiconque vous fera mourir, pensera offrir un culte à Dieu. Je crois que c'était un peu ça lorsqu'ils ont tué Étienne. Et je crois qu'il y avait un jeune nommé Saul, plus tard Paul, qui a témoigné, qui a dit « c'est une bonne chose que vous faites en tuant Étienne ». Et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni moi, ni le Père, ni moi. Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Voilà, on est à un moment où tout change. Jésus les quitte. C'est eux qui vont devoir assumer la mission de Jésus dans le monde. Et ça ne va pas être facile. Pourquoi Jésus, il les prévient des difficultés? Parce qu'il veut tout simplement qu'ils ne jettent pas l'éponge. C'est une mission tellement importante. C'est une mission très très important pour que ceux qui sont les siens dans le monde soient ôtés du monde pour appartenir à Jésus. Ça passe par le témoignage. Je crois que ces versets ont beaucoup de pertinence pour nous. Mais aimez-vous les uns les autres, suivez son exemple. Est-ce que vous voyez que ça coûte de suivre l'exemple de Jésus? Suivre son exemple, c'est donner sa vie pour que les autres peuvent vivre. Suivre son exemple, lorsqu'on raconte l'évangile à nos amis, ils ne vont pas tous être contents. On va recevoir des claques. Ça va nous coûter. Et pourtant, Jésus nous demande de faire comme lui, il a fait. Et je crois que ces versets sont très importants pour nous, avec notre mission jébusienne. Vous savez, cette année, nous avons pris la devise « s'intéresser aux autres ». Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais en quelque sorte, c'est le thème thématique derrière notre week-end de rentrée. « S'intéresser aux autres ». S'intéresser aux autres, en partie parce que le comité national qui a choisi ce thème pense que peut-être on reste un peu trop entre chrétiens et qu'on a besoin d'aller vers les autres davantage. Alors, pour vous, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, Mais ça fait partie de l'idée qu'on s'intéresse aux autres, bien sûr, pour pouvoir porter le message de Jésus auprès d'eux. Mais il faut être réaliste. Lorsqu'on s'intéresse aux autres avec l'évangile dans notre main, dans notre bouche, ça va nous coûter. On va nous haïr. Est-ce que c'est pour ça qu'on ne devrait pas le faire? Est-ce que c'est pour ça qu'on ne devrait pas s'intéresser aux autres? Non. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. Intéressons-nous aux autres. Forgeons des amitiés avec les autres, des relations avec les autres, pour pouvoir leur parler de Jésus. Mais peut-être ce soir, vous êtes conscient de ne pas encore être venu à Jésus pour avoir la vie éternelle. Alors, je veux vous dire, si tout semble un peu noir, que Jésus vous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est ce que Jésus veut pour vous. Il vous invite à la vie éternelle. Mais Jésus ne cache pas les coûts. Il est honnête, Jésus. Il dit, oui, ça va vous coûter quelque chose de venir à moi. Le monde vous haïra à son tour. Mais à mon avis, la vie éternelle que Jésus nous offre vaut la peine.